Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Le meilleur de Séances Radio est maintenant sur We Love Cinéma.
Dans les ressorties du mois d'octobre, coup de projecteur sur deux films d'Ingmar Bergman, mais aussi Le Fanfaron de Dino Risi, Borsalino de Jacques Deray, Mon oncle d'Amérique d'Alain René et deux longs-métrages emblématiques de l'un des maîtres du cinéma fantastique, John Carpenter. On commence cette actualité des ressorties avec Ingmar Bergman. On en avait déjà longuement parlé dans le flashback précédent puisque nous avions interviewé Janne Magnussen pour son documentaire Bergman, une année dans une vie. Mais il y a de nombreux films d'Ingmar Bergman qui ressortent dans les salles en complément de la rétrospective à la Cinémathèque française. Le 24 octobre, Le Visage, L'œil du diable, À travers le miroir, Une passion, Mon île phareux et De la vie des marionnettes sortent en version restaurée. Également le 24 octobre, Le Silence, réalisé en 1963, l'histoire de deux femmes et d'un petit garçon qui font halte dans un hôtel de luxe désuet et désert au cours d'un voyage dans un pays qu'on ne connaît pas, en guerre, dont ils ne comprennent pas la langue. Un film qui peut être très bien illustrer la phrase d'Olivia Salles que je trouve assez juste sur Bergman. La compréhension vertigineuse de l'humain qui caractériserait son cinéma, c'est assez juste. Ce qui est frappant en revoyant en voyant Le Silence, c'est la manière vraiment extraordinaire qu'il a de filmer les visages de ces actrices, tant dans des moments de jouissance que des instants de douleur et d'effroi. L'atmosphère mystérieuse aussi est décalée de cet hôtel improbable avec cette bande de comédiens nains qui arpentent comme ça les couloirs de l'hôtel. Et puis la complexité, bien sûr, mais ça c'est toute l'œuvre de Bergman, des relations entre les hommes et les femmes, en l'occurrence là entre ces deux femmes, campées magistralement par Ingrid Tullin et Gunnel Lindblom, une œuvre puissante, secrète et impudique donc à redécouvrir le 24 octobre. Et puis, 13 autres films de Bergman sont déjà dans les salles depuis le 26 septembre. Je les cite, hein, Musique dans les ténèbres, La prison, Jeu d'été, Monica, Sourire d'une nuit d'été, Les fraises sauvages, La source, Les communions, Persona, Cri et chuchotement, Scène de la vie conjugale et Sonate d'automne, tous bien sûr en version restaurée et bien sûr Le septième sceau, réalisé en 1957. Nous sommes en Suède, au 14e siècle, de retour des croisades, un chevalier rencontre la mort en chemin. Il lui propose une partie d'échecs afin de retarder l'échéance fatidique et de trouver des réponses à ses questionnements sur la foi. Entre-temps, le chevalier et son écuyer vont faire la rencontre de plusieurs personnages intrigants entre une famille de troubadours et une horde de dévots fanatiques. Une fascinante partie d'échecs avec la mort qui retrouve un nouvel éclat grâce à cette éblouissante restauration. Là, j'insiste vraiment, j'ai pu le découvrir à Cannes Classique et c'est un éblouissement magnifié par la beauté sidérante du noir et blanc. On est à nouveau happé par cette ambiance de fin du monde avec en point d'orgue la crainte du jugement dernier, magistralement personnifié lorsque le jongleur doit mimer l'état d'effroi au milieu de la caverne, un instant où il est humilié, un moment très fort, une œuvre métaphysique sur la peur de la mort où les croyances et les superstitions sont remises en question. Et puis Bergman n'hésite pas non plus à tortiller l'histoire, entremêlant la fin des croisades, la peste noire et les procès en sorcellerie dans une même temporalité, alors que tous ces événements ont lieu à plusieurs siècles d'intervalle. C'est un film, en le revoyant finalement, moins austère qu'on pourrait le croire, moins statufié. Bergman fait souvent un peu peur parce que dans Le septième sceau, il y a aussi de l'humour, même de manière assez prononcé, hein. Les répliques entre le chevalier et la mort sont parfois très savoureuses. Et puis le dernier plan, finalement, célèbre la vie, qui n'est pas tellement associé à l'œuvre de Bergman. Donc vraiment, vraiment, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, absolument à voir Le septième sceau en salle le 26 septembre, un des films préférés de son auteur.
Vem är du?
Jag är döden.
Kommer du för att hämta mig?
Jag har redan länge gått vid din sida.
Det vet jag.
Är du beredd?
Min kropp är rädd. Inte jag själv. Vänta ett ögonblick.
Så säger ni alla. Men jag lämnar inga uppskov.
Du spelar ju schack, inte sant?
Hur vet du det?
Ja. Jag har sett det på målningar och hört i visorna.
Ja, jag är verkligen en ganska skicklig schackspelare.
Du kan ändå inte vara skickligare än jag.
Varför vill du spela schack med mig?
Det är min sak.
Det har du rätt i.
Villkoret är att jag får leva så länge jag står dig emot. Spelar jag dig matt, friar du mig. Du fick svart.
Det passar ju bäst så. Intressant.
Changement de registre total avec le Fanfaron de Dino Risi qui ressort le 3 octobre en version restaurée 4K, une restauration réalisée par la Cinémathèque de Bologne et l'Institut Luce Cinecittà, interprété bien sûr par Vittorio Gassman et Jean-Louis Trintignant, un méditerranéen très en verve, désinvolte, charmeur et fanfaron, fait la connaissance d'un étudiant, donc le méditerranéen c'est bien sûr Vittorio Gassman, fait la connaissance d'un étudiant en droit studieux, timide et complexé, c'est Jean-Louis Trintignant. Il va lui faire vivre deux jours de randonnée trépidante de Rome à Viareggio. Ettore Scola a été l'un des trois scénaristes du film, hein, et collabora à plusieurs reprises avec Dino Risi. Le Dino Risi disait lui-même, hein, il avouait qu'il se reconnaissait plutôt bien dans le personnage de Vittorio Gassman, personnage qui avait été proposé à l'origine à Alberto Sordi, le rôle donc de Bruno Cortona, mais Alberto Sordi avait décliné. Gassman-Risi, c'est le début d'une magnifique collaboration, hein, qui se poursuivra évidemment avec Parfum de Femme et Au nom du peuple italien. Il est, il faut dire, toujours formidable en volant de sa Lancia Aurelia dans la peau de ce séducteur hableur et volubile, sorte de quintessence du mal italien face à un Jean-Louis Trintignant très juste et parfait en étudiant coincé. Un des sommets de la comédie italienne, mais aussi un regard extrêmement lucide sur une société en plein boom économique, pleine d'insouciance et d'allégresse, qui finira, à l'image de la scène finale, par prendre des chemins beaucoup plus sinueux.
Tra mezz'ora siamo a Civitavecchia, ci facciamo una bella zuppa di pesce, alle 5 stai di nuovo a casa. Fino a stasera, oh, a oggi.
Non fa niente, guardi, mi riporti indietro.
Ah no, andiamo da Ernestino al 13° chilometro.
È lontano, io scendo.
Ma che è lontano? 4 minuti di macchina, con me.
Guarda come dondolo, guarda come dondoloco.
Sono nelle mani di un pazzo.
Con le gambe d'angolo.
Hai avuto paura?
No, no, guida bene lei.
Vai, cavolina! Vai!
Ma vedo mille mie.
Vai a spinta!
Venirmi insieme a te. Guarda come dondolo.
Roberto, aspetta al bar.
Dimmi una cosa, ma tu con quella ci hai parlato mai?
Una volta sola all'università.
Una volta. Oh, ma io a te mica hai capito.
Sei qua. Io per le donne sono come un cane da tartufo.
Le mie gambe tremano.
Hello, darling!
Quella a destra da guardare.
A me?
E come no?
Ah, sono qui per puro caso. Tra qualche settimana avrò gli esami e dovrei già essere a casa a studiare il diritto amministrativo.
Che fa lei qui? Bravo, così mi piace. Quando ridi mi stai più simpatico. Ah, robe, che te frega delle tristezze.
Piacere.
Dai, leva questa maschera. Guarda, so che gli è successo, è un avvocato, una persona seria.
Quanti chilometri sono da qui a Viareggio?
Hai telefonato a Valencia.
L'angolo.
Bravo, è così che mi piace. Senti, vabbè, te ne dici, ci prendiamo a Calafuria, ti faccio mangiare una zuppa di pesce da rimpazzire.
Ho passato con te i due giorni più belli della mia vita.
Davvero.
Salino de Jacques Deray ressort en version restaurée 4K le 10 octobre, réalisé en 1970 avec Alain Delon et Jean-Paul Belmondo, mais aussi Michel Bouquet, Nicole Calfon et Julien Guiomard. Hein, Belmondo et Delon campent deux truands du milieu marseillais dans le Marseille des années folles, hein, François Capella et Roxy Freddy. C'est après la lecture du livre de Gene Saccomano, Bandit à Marseille, que Delon a eu l'idée de en faire un film. Sautet, Deray, Carrière, Jean-Claude Carrière et Jean Co. S'attelle alors à l'écriture du scénario. Le tournage se déroule plutôt bien, sans accroc particulier. Il se jauge un peu, mais ça se passe pas mal. À la sortie du film, les critiques sont assez mitigées. Et c'est vrai qu'en le revoyant, je trouve qu'on peut toujours reprocher un peu cette vision très propre quand même et idéalisée du Marseille de cette époque et de deux truands marseillais notoires dont s'inspire clairement le film. Hein. Les véritables Paul Carbone et François Spirito qui n'étaient pas spécialement des enfants de cœur, surtout au moment de la guerre. Et on peut regretter le manque de personnalité de Jacques Deray, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup, mais qui là, talent est un peu étouffé hein, quand même par la présence
un peu coincé par
ses comédiens vedettes.
C'est vrai que ça s'est bien passé au tournage. Moi, à la sortie, hein, pour des problèmes de place, de nom sur les affiches, hein, ça a été quand même un peu houleux quand même. Hein, donc, Delon ayant un peu menti, hein, on va dire, pour résumer. Mais il y a quand même la musique de Claude Bouling, hein, il faut quand même, c'est assez incroyable. Mais je crois que Deray préférait la suite, en fait. Borsalino & Co.
Réalisé quelques années après, oui.
On y retrouve plus des thèmes qui lui sont chers. Je trouve qu'il a plus, puis il y a évidemment l'amitié avec Delon, même si Delon, même dans Le Monde, il y a quelques jours, minimise toujours ses collaborations avec De ou Verneuil, ce qui est toujours un peu attristant, et il met toujours en avant Visconti et Melville. Et Melville. Alors que De Ray, ça a été quand même, là, quand on revoit La Piscine, je veux dire, c'est un film important dans la carrière de Delon, quoi. Donc.
Alors oui, pour entrer juste un peu dans le détail, en effet, le succès a été entaché par une brouille entre les deux acteurs, puisque par contrat, il était prévu que l'affiche et le générique du film soient ainsi libellés, Adèle Productions présente Belmondo Delon. Or, une fois la maquette de l'affiche réalisée, Delon refusa de la présenter à Belmondo. Lorsque Belmondo s'aperçut qu'il était écrit sur l'affiche « Paramount présente une production Alain Delon », Belmondo Delon dans Borsalino, il intenta un procès qu'il gagna en 1972. Et en effet, petite anecdote par rapport à la musique dont vous venez de parler de Claude Bolling, elle existait en fait avant le tournage. Le compositeur avait fait écouter à De Ray et Delon plusieurs morceaux existants, dont un qu'il venait d'enregistrer pour un 45 tours qui n'était pas encore sorti. Et De Ray se fixa alors immédiatement sur ce son de piano bastringue et choisit ce morceau comme thème central du film. Un titre aujourd'hui légendaire qui contribuera grandement au succès du film.
Je veux toujours te parler, mais on n'a jamais deux minutes tranquilles.
T'as raison.
Dis donc, il y a un autre coup qu'on pourrait faire tous les deux, là, du même genre que les poissons, mais en plus grand.
Explique.
Polly.
Quoi, Polly?
La boucherie.
Ça m'intéresse pas, la boucherie.
Pourquoi?
J'aime les bouchers.
Je suis sûr qu'on peut l'avoir, Polly. Comme Marello, c'est des hommes finis. Un coup de pouce et il bascule.
Peut-être, mais ça m'intéresse pas.
Laisse-moi au moins t'expliquer. Hein?
Je vais te le faire à pile ou face.
Pile?
T'as perdu. Tu vois, faut pas jouer avec moi.
Nous parlions dans le précédent flashback de l'année dernière à Marienbad. Alain René est à nouveau à l'affiche des ressorties avec Mon Oncle d'Amérique, réalisé en 1980, qui ressort le 24 octobre en version restaurée avec Gérard Depardieu, Nicole Garcia, Roger Pierre et Henri Laborie. Henri Laborie qui joue son propre rôle, qui part de l'exemple de trois destinées pour illustrer ses théories scientifiques sur le comportement humain. Roger Pierre est un ambitieux qui mène une carrière littéraire et politique. Nicole Garcia est une comédienne qui a quitté ses parents communistes et Depardieu, un fils de paysan qui devient directeur d'usine. C'est Alain René qui demande à Jean Gruot d'écrire un scénario d'après les travaux du neurobiologiste Henri Laborie à succès, puisque le film remporta tout de même le grand prix du Festival de Cannes et fut un succès en salle. René met en exergue les théories, oui, pour ceux qui n'ont pas vu le film, comprennent un petit peu comment ça fonctionne. René met en exergue les théories scientifiques de Laborie sur le comportement humain aux situations vécues par plusieurs protagonistes. Donc c'est un film très étonnant quand même dans sa construction, dans lequel René illustre des moments clés de la vie de ses personnages par des extraits de films, puisque chacun des personnages s'identifie à un grand acteur du cinéma. Daniel Darieux pour Roger Pierre, Jean Marais pour Nicole Garcia et Jean Gabin pour Gérard Depardieu. Une œuvre très stimulante et ludique que René décrivait comme une comédie biologique et qui amorce une rupture dans sa filmographie annonçant Smoking No Smoking et on connaît la chanson.
Ici, j'étais sûr qu'il y avait un coffre enterré avec un trésor. Je m'étais procuré une pioche et je creusais, je cherchais. J'y passais des journées. J'entendais tout le temps parler d'un oncle, un frère de ma grand-mère qui était parti en Amérique. J'étais sûr qu'il reviendrait pour me dire où se trouvait le trésor. Pour moi, le roi de l'or, c'était lui. Mon oncle d'Amérique.
Ils ont tout déménagé.
Qui ça, il?
Oui, oui, bien sûr, vous pouvez compter sur moi.
La race blanche, la plus parfaite des races humaines, habite surtout...
Merde, merde, merde!
L'Europe, l'ouest de l'Asie... et l'Amérique.
Et puis il faut bien qu'il y ait un chef. Nous avons choisi Vestrat.
Est-ce que vous fournissez le tablier et la toque blanche?
Il va vous casser la figure.
Un cerveau, ça ne sert pas à penser, mais ça sert à agir.
Regarde, moi, paysan, fils de paysan, tout juste le certificat. Quand j'ai débuté, j'en savais moins que toi. J'ai suivi des cours, les arts et métiers. J'ai gravi un à un tous les échelons.
On termine cette partie ressortie avec deux films de John Carpenter, Halloween et Fog, réalisés en 1978 et 1980, qui ressortent l'un et l'autre les 24 et 31 octobre, à l'occasion en fait d'une rétrospective plus large de ces films de 78 à 88, puisque nous aurons dans les mois à venir New York 97, Prince des Ténèbres, The Live, enfin voilà, plusieurs longs métrages. Halloween est donc sorti en 78, Fog en 1980. Bon, vous me direz si je me trompe, Jérôme. Fog, il le réalise deux ans après. C'est pas un film que Carpenter aime énormément. On le revoit, il est quand même très handicapé par son budget, ses effets spéciaux. Je pense daté même à l'époque.
C'est un film bancal.
Tellement bancal que le premier montage fut tellement calamiteux que Carpenter dut retourner une partie des scènes ainsi que réenregistrer intégralement la musique et la bande-son. Deux ans auparavant, il y avait eu Halloween, un classique incontestable.
Oui, et puis c'est des films à voir en salle. Hein. Moi, j'ai le souvenir d'avoir découvert Halloween lors d'une projection à la Cinémathèque à Chaillot. C'était la première fois que je voyais le film. Comme il a une utilisation incroyable du scope, faut vraiment voir ça en salle. En plus, là, il est secondé par Dean Cundey, son chef-op de l'époque. Autant je suis assez critique sur ce qu'il fait Dean Cundey par la suite sur Jurassic Park ou des choses comme ça. Autant quand il est avec Carpenter, c'est assez incroyable la photo. Même alors Fox, c'est vrai que c'est vraiment pas un de ses meilleurs, mais c'est vrai qu'il a retourné parce que le premier montage ne faisait pas peur.
un peu embêtant pour un film.
Mais par contre, visuellement, ça reste assez époustouflant. Le travail sur la lumière et puis près du phare et tout ça. Halloween, évidemment. Donc vraiment, je pense que voilà, moi j'ai très envie de revoir certains de ces films en salle pour l'utilisation du cadre et le travail sur la photo. Quoi, donc.
Oui, et puis aussi pour avoir déniché, entre guillemets, des acteurs inconnus, puisqu'il découvre évidemment Jamie Lee Curtis dans Halloween, qui est une parfaite inconnue. En fait, il réalise le film après une proposition du producteur Mustapha Akkad, qui avait été séduit par Asso et qui lui propose la réalisation d'Halloween. 22 jours de tournage, 325 000 dollars de budget. Il signe la bande originale, rentré depuis dans l'histoire. Et au final, un des films les plus indépendants, parce que c'était un film indépendant à l'époque, les plus rentables de l'histoire.
Pendant très longtemps, c'était le film indépendant le plus rentable de l'histoire, jusqu'au projet Blair Witch, en fait. Je crois que ça avait donc coûté 300 000 euros et ça avait rapporté 50 millions de dollars. Donc voilà, ça a vraiment lancé la carrière de Carpenter, qui va encore continuer un peu chez les indépendants, chez Avco Ambassi, avant de faire The Thing chez Universal. Avec la suite de la carrière un peu plus compliquée dans les studios, évidemment. Donc voilà, mais c'est vraiment important, quoi. Et c'est un des cinéastes majeurs de la fin des années 70-80. Il faut aller célébrer ça, quoi.
Et vous pourrez éventuellement le célébrer aussi à l'occasion de la sortie du 11e film de la franchise Halloween, puisqu'un 11e film sort dans les salles le 24 octobre. Alors, je ne l'ai pas vu, mais pour juste vous informer, c'est comme si on avait gommé les 9 films précédents. On repart de la base et en fait, c'est une suite 40 ans après, du premier. Premier. Ouais. C'est comme si le 2 n'avait pas existé et tous les suivants, pareil.
Pourtant, le 2 se passe 3 minutes après le. Enfin, même pas, c'est la continuité du 1. Le 2, vraiment, c'est la même nuit.
C'est la même nuit, c'est juste après. Le 2 que Carpenter au départ devait réaliser, finalement, il n'a pas voulu le faire.
Ça reste un film inutile, mais c'est quand même un film qui fait le lien et bref.
Voilà, donc Carpenter a collaboré quand même par la musique à ce nouveau piste, on s'y perd complètement, mais en tout cas voilà, donc double actualité, évidemment l'original qu'il faut absolument revoir le 24 octobre, et puis le même jour, si ça vous tente, cet énième volet donc avec à nouveau Jamie Lee Curtis.
15 years ago, I met this 6-year-old child with this blank, pale, emotionless face, the blackest eyes, the devil's eyes.
I'm babysitting the Doyles. The Wallaces leave at 7.
What about the boogeyman?
The boogeyman is coming.
There's no such thing. Halloween night, it's when people play tricks on each other. It's all make-believe. The boogeyman can only come out on Halloween night, right?
Right.
Well, I'm here tonight. I'm not about to let anything happen to you.
Promise?
Promise.
You know, it's Halloween. I guess everyone's entitled to one good scare, huh?
He's been here once. He's on his way. Tonight.
Families, children, all lined up in rows up and down these streets. You're telling me they're lined up for a slaughterhouse?
Death has come to your little town, Sheriff.
Retrouvez l'ensemble des contenus séances radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.